Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Nous parlions la semaine dernière des sorties de guerre grâce au livre de Guillaume Piketty sorti aux éditions Passé Composé. Nous parlons désormais d'un tout autre sujet, Charles Maurras, à l'occasion de la publication par Axel Tisserand de Maurras et le racisme aux éditions de Flore. Axel Tisserand qui est un habitué de cette émission. Merci beaucoup Axel d'avoir répondu présent une nouvelle fois.
Merci de m'avoir invité, Charles de Maillère, et bonjour aux éditeurs de Radio Courtoisie.
Je précise que, comme d'habitude, Claudia sera notre ange gardien pendant cette émission. D'abord, Axel, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre? Parce que finalement, alors, on t'a reçu à plusieurs reprises hein, pour parler de tes analyses précises sur Charles Maurras, et on aurait pu penser que justement, cette question du racisme, d'autant plus que tu as déjà travaillé dans ton précédent ouvrage sur la question de l'enquistement antisémite chez Maurras, on pourrait dire, bon. J'imagine que ce n'est pas la première question que tu as envie d'aborder quand tu réfléchis à Charles Maurras. Pourquoi avoir voulu faire ce texte?
Je pense que, paradoxalement, elle est d'actualité parce qu'aujourd'hui se pose la question d'identité. Elle se pose énormément dans notre société, elle se pose au plan français, au plan européen. Et je pense important de voir que ce n'est pas un concept maurrassien, l'identité, justement, peut-être parce que la question à cette époque se posait de façon différente. Elle se posait plutôt en termes d'héritage, d'héritage national, d'héritage politique. Et parce que, précisément, il ne faut pas donner de fausses réponses à cette question d'identité. Et donc, il m'a semblé qu'aborder cette question de fond de Maurras et le racisme était intéressante parce que aujourd'hui deux réponses dominent. La réponse la plus, comment dire, la plus large, la plus voyante sur le plan médiatique, c'est la réponse par les valeurs républicaines. Les valeurs républicaines, notre identité, ce sont les valeurs républicaines. La France efface même devant la République française, voire même la République tout court. On parle même plus de République française le plus souvent. Ce sont les valeurs républicaines et elles-mêmes qui sont appelées à se dissoudre dans les valeurs de l'Europe, les valeurs que sont les droits de l'homme, l'état de droit, etc. Et effectivement, là, c'est une identité qui me semble purement abstraite, évanescente. Et de l'autre côté, pour réagir à cette identité, et toujours souvent au plan européen d'ailleurs, on voudrait inventer le mythe du retour à un peuple européen, une ethnie européenne, un empire européen qui aurait existé dans l'histoire, qu'on fait parfois remonter jusqu'à des millénaires et des millénaires. Dominique Venner, l'orgueil de l'univers, a écrit un livre sur les 25 000 ans de l'identité européenne. Et là, il me semble qu'il y a une dérive ethnique et voire une dérive raciste. Et il me semblait important, justement, de montrer comment le penseur du nationalisme français, le plus profond, celui qui a fondé justement le concept de nation intégrale, hein, qui est simplement la monarchie royale hein, chez Maurras, et présent se posait cette question. Disons un point mot de l'identité, et comment pour lui précisément l'identité ressortissait avant tout de l'amitié politique. Et que par conséquent, Maurras faisait à la fois une identité purement idéologique, abstraite, hein, la France patrie des droits de l'homme, hein, il a montré ça dans Quand les Français ne s'aimaient pas, par exemple, hein, dans son livre, et également, il a toujours refusé, et dès l'invention du mot en 1895, hein, il a toujours refusé également le racisme. Et ce déterminisme, en fait, qu'est le racisme. Donc, il m'a semblé qu'aujourd'hui, il était bien de remontrer comment une autre identité que l'identité idéologique ou l'identité ethniciste pouvait précisément être d'actualité.
Tu écris ainsi, car il ne saurait être question que, sous prétexte qu'une idéologie se déclarant antiraciste soit devenue folle et enseigne des sophismes aussi ineptes que dangereux, nous renoncions à une partie de nous-mêmes. Pour toi, cette dérive ethnique ou raciste, c'est renoncer à une partie de soi-même pour ceux qui suivent le nationalisme intégral.
Effectivement, parce qu'effectivement, l'antiracisme aujourd'hui est devenu fou. Hein. L'antiracisme est souvent devenu fou. Souvent, d'ailleurs, il est fondé sur une sorte de racialisme qui ne veut pas dire son nom, voire de racisme qui ne veut pas dire son nom. Pierre Taguieff, qui m'a fait l'honneur de donner une
Oui, j'ai
postface.
oublié de préciser que ta gaffe en préfacé. Oui, pardon,
Effectivement.
c'est
Hein.
un peu important.
Non, non. Donc, il m'a fait l'honneur de donner une postface à ce livre, a bien montré comment, en effet, l'antiracisme est devenu fou. Mais ce n'est pas parce que l'antiracisme est devenu fou, parce que l'antiracisme, effectivement, est devenu une idéologie qui est même puissante parfois au plan juridique, mais qu'on ne peut pas suivre parce que, précisément, c'est une idéologie de dissolution de l'unité nationale, qu'il faut pour autant avoir des tendresses pour l'ethnicisme ou un certain racisme. Voilà, ou le retour de la notion de race, qui est une notion ambiguë, qui est une notion qui n'a pas véritablement de fondement scientifique. Voilà, c'est la raison pour laquelle je tenais également à faire cette mise au point.
Tu affirmes d'ailleurs qu'une dérive ethniciste ou raciste, ce serait une victoire pour nos adversaires.
Oui, effectivement. Effectivement, parce que ce serait une façon de défigurer notre message. Nous pensons effectivement, comme race parle de race, il faut refaire un peu d'histoire du mot. Le mot race, c'est un mot qui est polysémique, il a plein de sens. Et à la fin du 19e siècle, là, il y a la biologie, les sciences naturelles qui ont un grand essor, et il y a différents penseurs qui, à partir de cela, veulent fonder une doctrine scientifique de la race, comme Chamberlain, qui est un Britannique qui est devenu ensuite allemand, comme Arthur de Gobineau, bien sûr, hein, celui que Maurras appelait le Rousseau gentillâtre, ou comme Georges Vacher d'Apouge aussi, hein, qui ont tous écrit des livres, par exemple, Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines, qui a écrit ça en 1855, donc très tôt. Vacher d'Apouge, qui a fait l'argent et son rôle social à la fin du 19e siècle, pardon. Vous avez Hudson Chamberlain également. Donc ces noms-là ont voulu fonder une notion scientifique du racisme. Et Maurras, qui était intéressé de voir l'évolution de la biologie, il était intéressé de voir vraiment ce que pouvaient donner des analyses scientifiques sur la race, néanmoins s'est toujours méfié de fonder une sorte de déterminisme scientifique et d'attribuer à ce qu'est un nouveau matérialisme, en fait, hein, c'est un déterminisme matérialiste, l'évolution des cultures humaines et notamment de la culture française. Donc il s'est toujours refusé, mais dès 1895, hein, quand Gustave Méry emploie le premier, du moins de ce qu'on sait, le terme de racisme, Maurras s'y oppose dans la Gazette de France dès 1895.
Manière très intéressante, d'ailleurs, tu rappelles que Gustave Méry plonge au-delà de la question raciste dans un univers mental imaginaire tout à fait différent de celui de Maurras. Hein. C'est la Méditerranée contre
Entre le
Grand
Nord
Nord.
et les Celtes, effectivement. Là, il y a en plus, effectivement, il y a un profond mépris de la Méditerranée chez Gustave Méry. Et ce mépris de la Méditerranée, on le retrouve 50, 40, 40 ans plus tard chez un raciste genevois naturalisé français sous le Front populaire, qui s'appelait Montandon, et qui lui aussi reproche à Maurras, en fait, ses origines méditerranéennes, voire
Oui,
moraines, voire ses mythes. Bon, voilà.
tu rappelles, Montandon tentait d'essayer de montrer que Maurras était marrane, en fait, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc, voilà, tout simplement, voilà. Non, il y a effectivement un préjugé anti-latin parce que peut-être précisément, lui, Maurras, il fonde sa civilisation sur la civilisation méditerranéenne, pas simplement Rome, évidemment, la Grèce et tout l'héritage judéo-chrétien. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a là une opposition, effectivement, frontale entre ces penseurs du Nord, ces penseurs également qui se rapprochent énormément du protestantisme, car c'est aussi important pour Maurras de montrer comment le protestantisme, pardon, est beaucoup plus conciliant avec les doctrines racistes que la civilisation catholique et méditerranéenne.
Tu rappelais, hein, que le Maurras est polysémique, et tu rappelles d'ailleurs que Taguieff a décrypté tout récemment
Oui.
le retrait même du mot race, RACE, hein, puisque
Oui.
on parle pas d'homonymie, mais de sonorité voisine. Pourquoi est-ce que ça t'a paru important de le rappeler? Est-ce que tu peux te dire deux mots de ces travaux de Taguieff?
Parce que, oui, race dans un mot de trop, hein, Taguieff a fait paraître ce livre en 2018, parce que sous prétexte que on ne puisse pas, effectivement, découvrir un déterminisme racial, biologique et encore d'ailleurs, hein, que cela n'ait pas de sens scientifique, il ne faut pas pour autant nier l'existence de populations qui ont des traits physiques, effectivement, et des traits culturels, sans pour autant, comment dire, faire que l'un détermine nécessairement l'autre. Hein. Je voudrais faire allusion à ça, c'est parce que par l'Académie française, il y a une polémique de la Ligue des droits de l'homme avec l'Académie française, qui a repris dans son nouveau dictionnaire la définition du Maurras qui avait été supervisée par Claude Lévi-Strauss, et l'Académie française donne cette définition. Chacun des grands groupes entre lesquels on répartit superficiellement l'espèce humaine, d'après les caractères physiques distinctifs qui ne sont maintenus, sont apparus chez les uns et chez les autres. Donc, c'est une façon superficielle, mais néanmoins, c'est-à-dire qui ne touche pas à l'essence humaine même de chacun des ressortissants de ces races, mais néanmoins, bon, qui des visus existent. Donc, d'un côté, il ne faut pas non plus nier la nécessité peut-être parfois d'employer ce mot, d'autant plus qu'il était employé dans la loi française précisément pour lutter contre le racisme, hein, Et c'est pas pour autant qu'on est un adepte du racisme ou des différences biologiques et physiologiques entre les races humaines. C'est pour ça qu'il me semblait important, effectivement, de rappeler cela.
En somme, tu rappelles dès l'introduction hein, que Maurras n'est pas déterministe,
Non.
que ce soit sous quelque rapport que ce soit, mais notamment sur le matérialisme biologique.
Voilà. Le racisme, effectivement, est un déterminisme, c'est un matérialisme aussi, c'est un matérialisme, c'est un déterminisme, et il s'oppose effectivement non seulement à la notion, comment dire, de la nation comme amitié, et finalement également aux politiques d'abord. C'est-à-dire que pour Maurras, il dit d'abord, on peut jouer en reconnaissant, on peut jouer sur les choses, on peut jouer sur les événements, on peut jouer sur l'évolution historique. Mais évidemment que si il y a un déterminisme racial, eh bien tout cela est devenu impossible. C'est une sorte de pendant au marxisme. Pour le marxisme, il y a une sorte de téléologie qui amène le prolétariat au pouvoir. C'est inéluctable, c'est la fin de l'histoire. Eh bien, on avait également qu'il y avait cela chez les racistes et les racistes les plus fous, comme par exemple le nazisme, où il y avait également une sorte de téléologie où la race aryenne devait finir par dominer le monde. Voilà, et mettre à son service les autres races considérées comme serviles ou comme inférieures. Alors, précisément, ça, c'est un déterminisme auquel Maurras s'est toujours refusé.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, Charles de Meyer, un plaisir et l'honneur de recevoir Axel Tisserand qui publie Maurras et le racisme aux éditions de Flore. Tu commences donc par rappeler la définition de la patrie chez Maurras. Pour Maurras, la patrie, c'est d'abord et avant tout une société naturelle.
Et une société historique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette définition que Maurras donne correspond d'ailleurs à la définition qui est donnée par l'Église catholique ou, et notamment par Jean-Paul II. Hein, je fais référence à Mémoire et Identité où finalement il dit que la patrie fait partie de ce que l'Église appelait des sociétés naturelles. Voilà, société naturelle, c'est-à-dire qu'il est dans la nature de l'homme de se regrouper en société et en société en nation. Voilà, effectivement, ce sont des sociétés naturelles. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on soit condamné à uniquement cette dimension-là. Hein, à cette dimension-là. Ça, c'est ce qu'impliquerait le racisme, c'est qu'on soit condamné à une sorte de dualisme racial, c'est-à-dire qu'on est condamné, la race, c'est notre tout. Eh bien non, nous vivons en sociétés qui sont des patries, nous vivons dans des nations, nous avons une culture, la culture française existe, n'en déplaise à M. Macron, nous avons des cultures, cela nous définit pour une part importante de notre être. Effectivement, cela pour autant ne nous détermine pas intégralement dans nos libertés profondes. Sinon, il n'y aurait pas d'humanité, il n'y aurait pas d'espèce humaine.
Ça nous permet d'aborder la question de l'hérédité chez Maurras. Tu parlais du thème tout à l'heure. Comment est-ce que ça tient une place importante dans la pensée de Maurras, l'hérédité, premier point, et que signifie-t-il dans ce cas par ce mot?
Alors, l'hérédité est importante, hein, puisque précisément, Maurras préfère penser en termes d'héritage, disons, en commençant. Donc en termes d'identité, effectivement, l'hérédité est importante, c'est ce qu'on reçoit de ses pères, c'est ce qu'on reçoit de ses ancêtres. Et dans une société où vivait Maurras, effectivement, l'hérédité se transmettait le plus souvent par le sang. Alors qu'est-ce que voulait dire Maurras quand il s'est transmis par le sang? C'est simplement parce que, ben, en faisant des enfants, ils sont dans une famille, cette famille est une famille française, elle peut également être provençale, d'ailleurs, elle est une bretonne. Hein, la France a plusieurs cultures, des cultures régionales. Que Maurras a toujours défendu. Donc, à notre essence, on a cet héritage. On a cet héritage. Le plus souvent, il se transmet effectivement par le sang. Ça ne veut pas dire que dans les globules, ça veut dire que dans la race, il y a cet héritage humain, mais ça veut dire que nous sommes une race historique au sens où, effectivement, de génération en génération, nous transmettons un héritage. C'est cela que Maurras appelle la race historique, justement. On se transmet un héritage. Bon. Mais Maurras dit également que le contact par génération vaut assimilation. Il le dit à propos de quoi? Il le dit en revenant de la Grèce, quand il est allé aux Jeux Olympiques. Parce que Maurras est tombé amoureux de la Grèce avant même d'y aller. Son voyage en Grèce en 1896 l'a conforté dans son amour de la Grèce. Et des gens se sont moqués de lui, mais les Grecs que vous avez rencontrés, là, à mon avis, il y en a bien peu qui descendent véritablement des Grecs de l'Antiquité. Mais Maurras dit que ce n'est pas grave. Le principal, c'est que la culture grecque se soit transmise. Et au contraire, il dit que moins il y aurait eu des Grecs descendant juifs originaires des Grecs de l'Antiquité, plus cela montre la force de la civilisation grecque, puisqu'elle a su se transmettre précisément par contact. Donc cet héritage, soit on l'a effectivement de façon directe par la transmission héréditaire de père en fils, de mère en fille, hein, la transmission familiale au sein d'une société, soit on l'a par contact, par assimilation. Maurras pensait effectivement qu'il était possible d'assimiler des étrangers à partir du moment où ces étrangers acceptaient d'être assimilés, et ben, comme les Francs ont été assimilés hein, à la culture latine. Hein. Les Francs étaient des, comment dire, des envahisseurs, mais ils ont pour la plupart, effectivement, admis les cadres et la langue d'ailleurs latine, qui a donné ensuite le français.
Il faut préciser tout de même, puisque si on pose la question dans son actualité, hein,
oui, bien sûr.
Axel, il y a une stabilité, pour le coup, ethnique en France oui. au moment où Maurras écrit. Oui. De fait, il y a une instabilité, je ne sais pas si le terme est heureux, aujourd'hui ethnique en France. Et là, je voudrais en revenir à ce que tu dis de l'analyse du sang pour Maurras, mais par Boutan. Tu dis, en fait, pour Boutan, le sang chez Maurras, il n'a rien de biologique, il a une relation biologique. Et c'est peut-être là où la précision doit l'emporter.
Je prends une relation philosophique entre l'âme et le corps, hein, comme depuis Aristote. L'âme, pour avoir besoin d'exister, elle a besoin du corps. Elle est incarnée dans un corps. Et le corps, pour être vivant, a besoin d'une âme. C'est-à-dire que l'âme, le corps est mort, hein, l'âme la quitte. Bon. Eh bien, si vous voulez, c'est la même chose, effectivement. L'âme par elle-même n'a rien de biologique, mais en revanche, elle a une relation biologique. Elle a besoin d'un corps, effectivement, pour exister. Eh bien, de même, pour ce qui est de la culture et pour ce qui est de la culture française, eh bien, on a besoin, effectivement, que des jeunes Français l'apprennent, la transmettent. Hein, mais néanmoins, c'est pas... C'est cette transmission à bord d'un peuple incarné, effectivement. Hein, mais en elle-même, effectivement, le sang français, la culture française n'a rien de biologique au sens qui pourrait être étroit du terme, au sens racial du terme. Ce n'est pas lié à la biologie. Est-ce que je me suis à peu près expliqué ?
Oui, oui. En fait, dans une actualisation, tu dirais que c'est la notion du le nombre finit par devenir qualité et une hyper-diversification rendrait impossible la transmission culturelle que tu décris.
Effectivement, là se pose une question aujourd'hui, c'est que si on peut assimiler des personnes effectivement à notre culture, lorsque en revanche on est face à un immense défi migratoire, où en plus on incite des populations, comme le fait la France et comme le fait l'Europe, à conserver leur culture, là effectivement le schéma ne fonctionne plus. Mais là on n'assiste plus à une volonté d'assimilation de personnes qui viennent de cultures différentes, dont certaines d'ailleurs ont été influencées déjà par notre langue avec la colonisation. Et au contraire, là, on assiste effectivement à une masse de personnes qui, si elles revendiquent de pouvoir conserver la culture au sein même de la nation, on arrive à un multiculturalisme qui est source de conflits, on le voit déjà aujourd'hui.
Source de conflits, et tu notais avec intérêt la question de la langue. Oui. Tu rappelles qu'il n'y a pas d'impérialisme linguistique chez Maurras. Maurras ne dit pas... sont français, tous ceux qui parlent le français, par exemple, dans notre ancien enfin, dans ce qui était à l'époque l'Empire colonial et ce qui est aujourd'hui notre ancien Empire colonial.
Effectivement, on a souvent reproché à Maurras son chauvinisme culturel. Non, Maurras, bien sûr, la langue française, il la considère comme une langue exceptionnelle et d'une grande valeur. Il considérait quand même que le latin est encore supérieur au français, on a des textes où il le dit. Il était provençal, il considérait lui-même que le provençal était inférieur au français, donc il y avait une sorte de hiérarchie, il considérait effectivement qu'il y avait une hiérarchie entre les langues latines elles-mêmes, mais il n'est pas pour imposer le français partout, il n'est pas non plus pour qu'on considère comme français tous les peuples, comme les Suisses ou les Wallons, enfin les Suisses voilà, qui parlent francophone ou les Wallons, pour les intégrer pour autant à la France. Il considère effectivement que, et ça, cet argument, il le donne face à l'Allemagne, où pour un Allemand, tous ceux qui parlent allemand sont allemands. Pour Maurras, tous ceux qui parlent français ne sont pas nécessairement français. Et ce n'est pas parce qu'un Français aime sa langue régionale, aime sa langue provinciale, que pour autant il n'est pas non plus un bon Français. Donc il n'y a pas d'identité, effectivement, entre la nationalité et la langue chez Maurras.
Cette absence de racisme chez Maurras, tu en fais état dans l'analyse de certains de ses proches. Tu rappelles la citation de Marie Deroux qui précise « Le racisme est tout à fait étranger au nationalisme français ». Et tu fais part, c'est intéressant à noter, de la reconnaissance de Jacques Bainville pour Charles Maurras, puisqu'il affirme que Maurras l'éloigna de la tentation raciste.
Effectivement, je faisais tout à l'heure allusion au livre de Vacher de la Pouge, « L'Aryan, son rôle social », ce livre avait fait grande impression sur le jeune Jacques Bainville. Il allait parler à Maurras, et Maurras lui dit de se méfier justement de ses vues sur l'arianisme. D'ailleurs, Maurras se moque, je vous montre plusieurs fois où il se moque de toutes les thèses arianistes, sur la supériorité des Ariens, sur l'existence même des Ariens. Il dit qu'on n'a aucune preuve que les Ariens auraient véritablement existé comme peuple. Donc effectivement, Bainville est reconnaissant à Maurras parce que le jeune Bainville, bah, c'est normal, il voit une science se développer, il a 20 ans, 25 ans, il voit une science se développer, c'est normal qu'il s'y intéresse. Mais justement, il reconnaissait à Maurras de l'avoir écarté de ses billevesées raciales, qu'il avait vu donc notamment chez Vacher de la Pouge.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, Charles de Meyer, un plaisir et l'honneur de recevoir Axel Tisserand qui publie Maurras et le racisme aux éditions de Flore. Maurras, d'ailleurs, dans ses polémiques avec une autre partie des intellectuels de l'époque, je pense à Marc Sangnier, j'espère que tu as noté que François Bayrou, quand il fait son discours de confiance, finit par citer Marc Sangnier. Ça me paraît intéressant dans les généalogies intellectuelles françaises, bref.
Le chrétien, oui. On a tous les chrétiens en France. Je le rappelle aux éditeurs qu'il aurait oublié, effectivement.
Et il lui reproche justement de considérer que pour Sangnier, Maurras serait dans la pure hérédité biologique, alors que justement, il veut parler de l'hérédité morale.
Effectivement, Marc Sangnier ne comprend pas le sens de l'hérédité chez Maurras, et Maurras lui rappelle, dans les nombreux articles qui ont composé le dilemme de Marc Sangnier, que précisément l'hérédité ne serait-il réduite chez Maurras à une détermination biologique. Il rappelle précisément cette hérédité qui n'a été culturelle que l'on transmet quand il y a effectivement stabilité de la population de famille en famille. Hein, et que, voilà. Donc c'est là qu'on appelle la race historique. Maurras parle toujours de race historique, c'est-à-dire fondée par l'histoire.
Un élément essentiel, c'est son rapport à la question de l'espèce humaine. Et le rapport, enfin, c'est pas ce que dit ton chapitre, mais c'est ce qui nous intéresse, entre la question de la dignité universelle de l'être humain promue par le catholicisme et sa conception chez Maurras. Toi, ce que tu dis, c'est que, en fait, c'est absolument symbiotique dans les considérations.
Maurras croit effectivement à l'unité de l'espèce humaine. C'est une question, enfin, une unité qui est parfois remise en question, mais il croit, Maurras croit à la profonde unité de l'espèce humaine. Il est même émerveillé par une sorte d'uniformité des hommes, à quelques races, à quelques cultures qu'ils appartiennent, devant certaines. Il ne précise pas, mais devant certains détails de l'existence ou devant certains accidents d'existence, il est admiratif de cette uniformité des réactions d'espèce humaine. Et effectivement, donc Maurras croit précisément à l'unité de l'espèce humaine. Et c'est ce qui permet justement ensuite pour lui ce caractère assimilateur. Il ne croit pas en l'égalité des civilisations. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a des civilisations. Il y a une civilisation qu'il met en avant, hein, la civilisation mitterrandienne, qui considère que c'est une très grande civilisation qui peut apporter énormément aux autres civilisations humaines. Donc il ne croit pas en l'égalité des civilisations, mais il croit bien en l'égalité foncière de tous les êtres humains dans leur dignité de personne. Ça, oui. Il écrit d'ailleurs un très beau texte dans Mes idées politiques, hein, c'est la politique naturelle, où précisément il revient sur la notion de personne, hein, qui est pour lui le facteur, effectivement, qui fonde l'assimilation entre tous les êtres humains, l'identité entre tous les êtres humains.
Ça nous amène à la question antisémite chez Maurras.
Oui.
D'abord, dans quel terme se pose l'antisémitisme maurrassien?
Alors l'antisémitisme maurrassien, déjà, il n'est pas original chez Maurras. Je veux dire, et là je m'appuie par exemple en particulier sur les travaux de François Huguenin dans l'École d'Action française, qui a été republié après chez Tempus dans l'Action française, où il montre effectivement que l'antisémitisme traverse toutes les couches politiques de la société. Donc je dirais que ce n'est pas une part originale chez Maurras. Je l'ai un peu étudié dans un précédent livre. L'antisémitisme de Maurras est dû à plusieurs facteurs. Un antisémitisme social, donc effectivement, c'est peut-être l'influence de Drummond, chez lui, l'antisémitisme social et économique. L'antijudaïsme religieux aussi, hein, le peuple déicide. Hein, je pense qu'effectivement, c'est les deux grands facteurs qui se mêlent chez Maurras pour fonder son antisémitisme. Mais ce n'est en revanche absolument pas un antisémitisme racial, un antisémitisme de peau. C'est-à-dire qu'il ne croit à peine à l'existence d'une race juive, contrairement à Bernanos, c'est amusant, où Bernanos insiste sur l'existence d'une race juive, très longtemps, jusqu'à la fin d'ailleurs, hein, jusqu'en 1945, des textes où il insiste sur l'existence d'une race juive. Pour Maurras, les juifs forment un peuple juif, avec sa culture, sa religion, qui n'est pas assimilé au peuple français. Voilà. Donc pour lui, c'est un peuple intérieur qui vit chez un autre peuple, le peuple français. Parce qu'il y a des juifs français. Hein. C'est ainsi que Maurras voit les juifs. Voilà. Donc, voilà, oui.
Et c'est absolument différent d'un certain nombre d'antisémites de l'époque. Tu reparles à cette occasion de sa forte opposition avec Montandon.
Voilà, parce que pour Maurras a fondé, s'appelle l'antisémitisme d'État, justement, c'est-à-dire montrer que les Juifs forment un peuple dans le peuple de France et donc répartir ensuite juridiquement les droits et les devoirs de ce peuple interdit du peuple français. Tandis que pour Montandon, qui est lui-même ouvertement un nazi, un socialiste, hein, il a collaboré dès 1940, dès que les Parisiens, pardon, que les nazis sont entrés à Paris. Montandon, pour lui, c'est l'antisémitisme de peau, c'est-à-dire les Juifs forment une race à part, forment une race préjudiciable au genre humain, tous les critères nazis, il n'y a pas besoin malheureusement de rappeler, effectivement. Donc là, il y a une position frontale, et Maurras ouvertement, et pendant la guerre justement, en 40, en 41, en 42, dans l'Action française, hein, Maurras s'en prend à l'antisémitisme de Montandon, s'en prend à l'antisémitisme de Pau, s'en prend au racisme de Montandon, hein, et précisément qu'il est stipendié par les Allemands, et il dit que lui, jamais, jamais, il ne partagera ce genre de vue sur le peuple juif ou sur le racisme en général. Alors que, au contraire, Montandon dit que Maurras, il accuse presque d'être juif, quoi. Bernanos aussi avait accusé Maurras à un moment d'être juif à la fin des années 30, dans Les Enfants Humiliés, ouais, c'est ça, je crois, dans Les Enfants Humiliés.
Et tu as une citation aussi du Chemin de la Croix des Âmes.
Et du Chemin de la Croix des Âmes également.
Sur cette question. Voilà. Il est intéressant de voir, ça c'est des choses qui pour les bons connaisseurs de Maurras est évident, mais je pense que c'est important d'y revenir, de le distinguer de la version hitlérienne du nationalisme allemand. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous faire les grandes différences sur cette question antisémite et sur quoi surtout? D'où viennent ces différences d'un point de vue intellectuel?
Bon, comme je viens de le dire, donc il y a un antisémitisme racial et exterminateur chez les nazis, que Maurras a bien perçu d'ailleurs dès les années 30. Hein. Les années 30, il perçoit que Hitler, effectivement, a comme projet d'exterminer les populations qui ne lui conviennent pas, et notamment les juifs. C'est une opposition radicale entre un antisémitisme français, que Maurras dit lui-même ouvert sur l'universel, version universelle, effectivement, parce qu'il est facteur de la civilisation méditerranéenne, c'est un des facteurs, un des vecteurs de la civilisation méditerranéenne, donc ce nationalisme français qui est purement défensif, hein, est ouvert universel, et un nationalisme allemand qui, au contraire, parce qu'il repose sur une sorte d'absolutisation du particularisme germanique, est au contraire fermé et exclut les autres races ou les autres peuples qu'il veut dominer, voire asservir ou exterminer. Et ça, cette opposition entre ces deux nationalismes est très forte chez Maurras. Et je parlais tout à l'heure du protestantisme. Maurras voit que dans le protestantisme, il appelle un schisme humain, enfin, pas le Fichte, un schisme humain, et bien le protestantisme fait précisément, est une sorte de, comment dire, de déification de l'homme allemand. Et il voit précisément dans le protestantisme une attitude très préjudiciable pour l'unité d'espèce humaine. C'est intéressant, par exemple, quand il a une querelle avec des protestants anglo-saxons qui disent qu'ils ont eu raison d'exterminer ou de parquer les Indiens d'Amérique, Maurras dit au contraire que les Latins ont bien fait, eux, là où ils étaient, de ne pas parquer les Indiens d'Amérique, mais au contraire, de favoriser l'alliance entre les colons espagnols ou portugais et les populations primitives, premières sur place. Hein. Il y a presque un éloge du métissage chez Maurras de ce qu'on peut pratiquer l'Amérique latine, et il condamne précisément cette façon protestante d'avoir écarté les Indiens d'Amérique et même de les avoir exterminés ou sinon de les avoir parqués. Donc c'est effectivement quelque chose de très ancien et de très constant chez Maurras.
Tu rappelles en ce sens que Maurras voulut toujours respecter l'homme dans le juif, malgré son antisémitisme.
Malgré l'État, c'est juif, une... Et malgré cet enquistement, effectivement, que pas seulement je regrette, malgré. Bouton a montré, je crois que là, Pierre Bouton a montré que cet aspect, si regrettable soit-il de la pensée maurrassienne, cet enquistement, si regrettable soit-il de la pensée maurrassienne, néanmoins, l'antisémitisme n'était pas un pilier de la doctrine maurrassienne, n'était pas un pilier du maurrassisme.
Autre élément très distinctif de la question chez Maurras, c'est qu'il va refuser, tu l'as dit tout à l'heure, je te cite, l'exigence d'universalité inscrite au cœur du nationalisme maurrassien permet de neutraliser le risque d'une vénération trop forte d'un particularisme.
Oui, effectivement. Et c'est ce qu'il reproche. C'est ce qu'il reproche précisément aux Allemands. Ce qu'il reproche aux Allemands, et romantisme allemand, protestantisme allemand, c'est d'être écouté un facteur de cette déification d'un particularisme, alors que cette ouverture sur l'universel, eh ben, interdit précisément de considérer que l'homme français, c'est l'homme en général, alors que l'homme allemand, Allemagne, hein, c'est l'homme allemand est l'homme par excellence pour un Germain, et surtout pour un Germain de l'idéologie nationale-socialiste, effectivement. Là, c'est une opposition frontale entre les deux conceptions.
Plusieurs points particuliers qu'on retrouve dans ton livre, hein, Axel, Maurras et le racisme d'Axel Tisserand aux éditions de Flore. D'abord, la question de la relation de l'Action française avec Édouard Drumont, qui est importante. Hein. Si tu peux nous faire un bref rappel de qui est Édouard Drumont, nous dire quelle influence il a pu avoir sur certains penseurs d'Action française. On pense à Daudet, dont en tout cas les premiers livres sont pleins de références à Drumont. Et ensuite, comment l'AF s'en distança, ou en tout cas, comment elle divergea de lui sur certains.
Édouard Drumont, hein, c'est cet auteur de la France juive, également, ou de hein, cet auteur de... dont lui, pour lequel, effectivement, c'est ce journaliste polémiste pour lequel la question juive est primordiale, et pour lequel, précisément, tout le pilier de sa pensée, c'est l'antisémitisme. Édouard Drumont, effectivement, avait énormément d'influence sur le public de droite de l'époque, public catholique d'ailleurs, hein, mais Lacroix y compris, hein, le journal Lacroix y compris, qui était très très antisémite à l'époque. Il a eu donc également de l'influence chez les jeunes, chez le jeune Maurras. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'abbé Penon, qui était le mentor de Maurras, hein, cet abbé qui lui a permis de surmonter sa surdité et de poursuivre des études, l'abbé Penon l'encourageait à écrire dans la libre parole, et Maurras y a toujours refusé, a refusé d'entrer dans la libre parole. Il semblait que Drumont n'était pas un doctrinaire solide, que cette obsession de l'antisémitisme ne pouvait pas fonder une doctrine nationale, ne pouvait pas fonder une doctrine politique solide. Et bon, s'il a écrit quelques articles, effectivement, dans le livre Parole, c'était justement pour entamer un débat avec Drumont sur cet aspect de la chose, à savoir qu'il fallait savoir dépasser l'antisémitisme qui, à lui seul, ne pouvait pas fonder, effectivement, une doctrine politique. Léon Daudet lui a écrit dans le livre Parole. Mais il a vite surmonté également bon, c'est ce tropisme de la libre parole, et il a rejoint Maurras et il a participé à la fondation de l'Action française. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que Léon Daudet et Maurras, lorsque Drumont est mort en 1916, si je me souviens bien, ils ont bien sûr écrit des articles dessus, mais ils ont insisté, surtout Daudet, a insisté sur cet aspect déterministe de la pensée de Drumont, cet aspect racialiste, raciste même de la pensée de Drumont. Il pensait précisément trop en termes de race et pas seulement en termes politiques. Et si un véritable disciple de Drumont au XXe siècle, même s'il y a un antisémitisme beaucoup moins, comment dire, ravageur et beaucoup moins polémiste, c'est Bernanos. Bernanos, lui, tout le grand polémiste Bernanos, il doit ça à la plume du Drumont. Non pas tant de la France juive, qui a un livre assez, enfin que je n'ai pas lancé personnellement, mais d'un livre comme La fin d'un monde, où là, vous avez un esprit d'un Drumont que certainement Bernanos a nourri Bernanos. Et c'est un véritable disciple de Drumont, donc au XXe siècle, c'est Bernanos, c'est ça jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, parce que souvent on oppose le Bernanos des grands cimetières sous la lune au Bernanos de la Grande Porte des Bien-Pensants, la Grande Porte des Bien-Pensants qui est justement une biographie épique de Drumont, mais dans le grand cimetière sous la lune, où contre Maurras, il prend position, contre Franco également, et pour les républicains espagnols, eh bien, Bernanos dit que ce livre, il l'écrit sous l'inspiration de Drumont. Hein? Donc, pour cela, Bernanos n'a jamais rompu avec Drumont. Donc, l'Action française, elle, au contraire, a dépassé Drumont. Et même encore dans les années 40, il arrive à Maurras d'écrire quelques articles sur Drumont, et pour toujours pour dire la même chose, à savoir qu'effectivement, Drummond était un auteur qui n'avait pas compris la dimension politique de son combat, qui ne s'était pas hissé à la dimension politique de son combat, précisément à cause de ce déterminisme et de ce pessimisme qui était lié à son déterminisme.
Autre question et autre point sur lequel tu reviens sur la grande divergence entre Bardèche et Maurras au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et ce sont des pages très intéressantes.
Oui, alors, effectivement, j'ai vu fleurir en 2018, là, l'année du 150e de Maurras, sur les réseaux sociaux, la légende, qui n'a jamais été sourcée ni documentée d'ailleurs, sur laquelle Maurras a réapprouvé la rafle du Vel d'Hiv, hein, faite par la police française, mais sur l'ordre des Allemands, en juillet 1942. Et j'ai approfondi la question parce que, en tant que. Je me considère comme intellectuel honnête et par conséquent de voir les sources. Et je suis au contraire tombé sur quelque chose de très intéressant, je n'ai pas découvert, mais bon, ça m'était passé inaperçu. Deux articles que Maurras a écrits dans Aspect de la France en 1949, sous le nom d'Octave Martin. Hein, c'était un pseudo parce qu'il n'avait plus le droit. Hein, il n'avait pas le droit de signer des articles dans la presse politique sous son nom. Où il déconstruit, pour employer un terme moderne, contemporain, il déconstruit le livre de Bardèche sur Nuremberg, ou la Terre promise, dans laquelle Bardèche dit que finalement, Nuremberg est non seulement un procès totalement illégitime, mais qu'en plus, je résume grossièrement, hein, mais qu'en plus le sort des Juifs ne nous intéresse pas, nous, en tant que Français. Et Maurras, dans deux grands articles d'Aspect de la France, et c'est à l'époque l'Aspect de la France, c'était des grandes pages, hein, comme la presse de l'époque. Dans deux grands articles, il démontre petit à petit l'argumentation de Bardèche en montrant, un, que si les Juifs, le sort des Juifs nous intéressait, à la fois le sort des Juifs français et celui également des Juifs étrangers, et que c'était à l'État français, précisément, d'emporter de main secourable, et que les Allemands avaient commis des crimes, effectivement, en les enlevant, en les persécutant et en les déportant. Donc Maurras, là, est très clair. Et il accuse également Maurice Bardèche. Il n'en parle pas le mot encore de négationniste, c'est pas lui qui l'attendait, le mot négationniste interviendra un peu plus tard, mais de nier les crimes, il dit, prouver historiquement les crimes des nazis dans l'Europe de l'Est. Effectivement, hein, que les nazis ont commis dans l'Europe de l'Est. Et puis plus tard, dans son dernier ouvrage, il parlera également des fours crématoires, hein, dans un terme très, très sensible. Et voilà. Donc effectivement, là, ces articles sont très... le refus qu'a Maurras de se désintéresser du sort, effectivement, des Juifs français et étrangers durant la guerre est flagrant dans ces articles.
Ce point étant établi, il t'apparaît de résumer la chose dans un titre de chapitre qu'on a cité à plusieurs reprises dans l'émission, mais ça me paraît intéressant que tu ramasses ta démonstration dedans. C'est le chapitre 9, une race historique, une nation politique.
Effectivement, nous ne pouvons être qu'une nation. Nous sommes une nation politique, c'est-à-dire que nous sommes une nation qui ne vit pas une idéologie, mais qui a été forgée par l'histoire, qui a été une création des Capétiens, une création de l'État capétien, hein, qui a permis justement la naissance de cette nation politique et qui a forgé cette race historique. Cette race historique a été forgée, bon, on peut se dire à Baville, nous sommes une race, nous sommes une nation, précisément parce que cette race historique, quand je dis le terme historique, eh bien, elle a été fondée avec des Latins, avec des Flamands, avec des Alsaciens et des Bretons, et les rois de France ont formé, à partir de tout cet ensemble de peuples, hein, tout ça, ils ont formé précisément une nation politique. Et non pas sinon on ne distribuerait pas la France. Hein. Si on opposait des races aux races, on ne pourrait pas expliquer la France. Et Maurras, précisément, considère que contrairement à l'Allemagne, qui se prétend une nation unique sur le plan ethnique et identitaire, la France, au contraire, est un composé qui forme une nation politique. Et ça, effectivement, c'est essentiel chez lui. C'est pour ça que lorsque Maurras parle de race, hein, c'est toujours, qu'il en parle positivement, je dirais, c'est toujours au sens de race historique et jamais de race biologique.
Un grand merci à Axel Tisserand de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle le titre de ton ouvrage, Maurras et le racisme, aux éditions de Flore.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous continuons avec les éditions de Flore. Après Maurras et l'antiracisme d'Axel Tisserand, nous en passons à un autre ami de cette émission, à la personne de Frédéric Rouillois. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'ange gardien de ces éditions de Flore et vous avez présidé à la réédition du manuel du royaliste de Firmin Baconnier. Avec une préface de Charles Maurras, et vous introduisez cette réédition aux éditions de Flore. D'abord, Frédéric, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs quel est le projet des éditions de Flore ?
Alors, les éditions de Flore ont été créées il y a maintenant une petite demi-douzaine d'années, on va dire. Et initialement, le projet n'était pas forcément très, très précisément défini. Donc, c'est une maison d'édition qui est adossée à la rue Croix des Petits Champs, hein, au 10 rue Croix des Petits Champs, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc, l'Action française, canal historique. Et donc, l'idée, c'était notamment de rééditer un peu des classiques de la pensée royaliste, maurassienne, etc. Voilà, et donc et éventuellement d'aller un petit peu au-delà. Enfin, mais c'était pas forcément extrêmement précis. Depuis 3 ou 4 ans, donc on m'a confié un petit peu les rênes de la chose, hein, même si je suis pas du tout seul évidemment à les gérer. On a essayé de professionnaliser un petit peu tout ça et de préciser par ailleurs un petit peu les axes de publication, d'édition. Et donc il y a effectivement d'un côté des éditions de textes classiques, hein, anciens, éventuellement des textes qui sont peu ou pas très bien réédités. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, ce sont des textes soit carrément inédits, soit des textes tout à fait récents. Par exemple, on sort la semaine prochaine un ouvrage extrêmement intéressant et qui, j'espère, aura beaucoup de succès, qui est un roman uchronique et dystopique d'un homme qui est un haut fonctionnaire et un historien de talent reconnu, qui est mort subitement et malencontreusement il y a exactement un an. C'est Maxime Tandonné qui avait été notamment le monsieur immigration de Sarkozy, hein, aux côtés notamment de Patrick Buisson, et qui a donc beaucoup écrit sur la question. Lui-même, c'est un énarque, historien, etc., qui a écrit plusieurs biographies, mais il n'avait jamais écrit aucun roman, aucune fiction. Et sans savoir ce qui allait lui arriver, naturellement, quelques mois avant sa mort, il a appelé les éditions de Flore en nous disant « Voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites, et j'aimerais que vous publiez ce texte que je viens de terminer, qui est un roman dystopique. Le problème, c'est que c'est aussi un roman à clé. Il y a beaucoup de personnages que j'ai croisés qui y figurent. Et donc, j'aimerais que vous le publiez, mais pas tout de suite. Vous voyez que ça attend ma retraite. Alors malheureusement, ça n'a pas pu attendre sa retraite, puisqu'il est mort plusieurs années avant celle-ci. Et donc, on a réussi, en contactant sa veuve, à avoir le texte, le manuscrit donc de ce texte, à le reprendre, à le mettre le rendre susceptible d'être édité et d'être lu par un large public. Et voilà, le livre sort la semaine prochaine. On fait une soirée de lancement la semaine prochaine. Et j'espère qu'il aura beaucoup de succès. Le livre s'appelle, un petit peu par antiphrase d'ailleurs, Le ministère de l'ordre moral. Voilà. Alors, ça passe dans la France, une France qui est en train d'exploser, la France des années 2060 à 2080.
Voilà. Est-ce que, Frédéric, cette soirée est ouverte au public ? Est-ce que les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent s'y rendre ? Et quelle est sa date éventuellement ?
Alors, il y a effectivement une soirée de lancement qui est le 3 octobre à l'hôtel de Bourrienne, hein, donc chez le président de l'Institut Pont-Neuf, donc qui est Charles Becbédé. Ceux qui veulent peuvent s'inscrire. Il faut s'inscrire. Hein, il faut s'inscrire pour ceux qui veulent y assister. Mais effectivement, c'est la soirée a priori est ouverte et libre. Et je pense que ça devrait être une réussite. Et je pense qu'il y aura également pas mal de presse, hein, parce que c'est un l'auteur. Donc Maxime Tandonnet était quand même très connu dans nos milieux, on va dire. Hein, il a beaucoup écrit. Il a écrit également dans la presse. Il a écrit dans Figaro, dans l'Heure actuelle, etc. Il a écrit plusieurs biographies qui ont eu du succès. Bref, voilà, c'est un personnage qui est tout à fait intéressant. C'est un livre qui est très intéressant. Et voilà, c'est à ça aussi que servent les éditions de Flore, pas seulement à rééditer des vieux textes royalistes, mais également à ouvrir des portes nouvelles à ceux qui veulent bien réfléchir à la situation et nous désigner où sont les problèmes et où sont les solutions.
Et pour ceux qui ne connaissaient pas Maxime Tandonnet, vous pouvez retrouver nos émissions sur André Tardieu dans les archives de ce libre journal des débats. Alors, vous ne faites pas que rééditer des textes anciens, cher Frédéric Rouvillois, il n'en reste pas moins que vous en publiez quelques-uns tout de même. D'abord, quelle a été votre idée? Est-ce que vous connaissiez ce manuel du royaliste de Firmin Baconnier? Comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que c'était au fin fond d'une bibliothèque de la Dix Croix des Petits Champs, chez un bouquiniste, finalement, où est-ce que vous avez mis la main dessus? Première question. Et ce n'est pas du tout de mettre la main dessus, il faut aussi décider de le publier, de le rééditer, cet ouvrage. Comment en avez-vous eu l'idée?
Vous m'avez traité d'ange tout à l'heure, mais il y a des anges un peu ignorants, c'est mon cas. Je connaissais l'existence de ce manuel du royaliste. Ceci dit, je ne l'avais jamais lu, à vrai dire. Je savais qu'il avait une certaine importance historique, mais voilà, je ne le connaissais pas. Et ce sont d'autres responsables de l'édition de Flore, et notamment François Belker, qui m'ont... qui m'ont dit que ce serait pas mal de le rééditer. Et effectivement, à ce moment-là, je l'ai regardé et j'ai trouvé que la chose était intéressante sur beaucoup de plans, notamment parce que donc, c'est un ouvrage qui est publié pour la première fois en 1903, hein, si ma mémoire est bonne, enfin, en tout cas au tout début du XXe siècle. Et en fait, c'est la première fois que quasiment la première fois, au moins depuis plus de 30 ou 40 ans, que dans les milieux royalistes, on va dire dans la droite, hein, conservatrice, etc., on publie un ouvrage sur les idées royalistes et qu'on le publie sous cette forme-là, sous la forme très particulière qui est la sienne, c'est-à-dire, au fond... Le titre le laisse un peu entendre, mais il faut le préciser, sous la forme d'une sorte de catéchisme, par questions et réponses. C'est une forme qui est extrêmement familière aux Français de l'époque, hein, parce qu'effectivement, ils sont à peu près tous allés au catéchisme, et au catéchisme, ils ont presque tous effectivement été amenés à potasser...
À apprendre par cœur, même, certaines réponses.
À apprendre par cœur, etc. Les questions... et réponses qui figurent dans les catéchismes officiels des différents diocèses. Donc voilà, c'est une forme de tout à fait habituelle, qu'on retrouve d'ailleurs dans de très nombreuses, dans d'autres secteurs d'activité à l'époque, hein, aussi bien dans les livres scolaires que dans les manuels qui sont destinés, par exemple, aux soldats. Hein, vous savez qu'il y a par exemple un manuel du fantassin qui paraît à l'époque, et j'adore cette anecdote, donc je vous permets de vous la citer, un manuel du fantassin qui commence par une question posée donc au fantassin, qui est « De quoi sont les pieds ?» De quoi sont les pieds? Est-ce que, Charles, mon cher Charles, vous pouvez répondre à cette question?
Absolument pas, absolument pas. Ça, c'est vraiment le genre de question piège auquel je ne me risque même voilà. pas.
Alors, la première question, c'est donc « De quoi sont les pieds ?» Et la réponse, c'est « Des soins permanents du fantassin. » Eh bien, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, tout le monde a l'habitude de ce type de choses, mais voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été... utilisé par les monarchistes jusqu'à ce moment-là, jusqu'au début du XXe siècle. Et en fait, c'est là qu'on touche à la chose intéressante. C'est de se demander pourquoi? Pourquoi est-ce que subitement on fait ça? Et la réponse, elle est simple, c'est qu'au fond, on va dire jusqu'au début du XXe siècle, il y a un milieu royaliste, entre guillemets, qui est très structuré, très construit, très nombreux aussi, hein, notamment dans l'ouest de la France, dans certains milieux paysans ou autres, évidemment dans toute la noblesse de province, voilà, où au fond, si je puis dire, on apprend le royalisme en apprenant sa langue maternelle et en buvant le lait de sa mère. Bref, on n'a pas besoin. Voilà, c'est comme, voilà, de même qu'on parle le français. On parle le royaliste, hein, dans ces milieux-là. On n'a pas besoin de l'apprendre en plus. On n'a pas besoin d'en préciser les éléments. On n'a pas à se poser des questions qui ne se posent pas à un véritable royaliste. Et donc voilà. Mais à ce moment-là, donc on est au début du XXe siècle. C'est un milieu qui est en train de s'effilocher pour beaucoup de raisons, notamment en particulier parce que une dizaine d'années auparavant, il y a le fameux ralliement suggéré par le pape Léon XIII, le ralliement donc des catholiques à la République. L'idée de Léon XIII n'est pas spécialement républicain, mais son idée, c'est que les catholiques ne peuvent pas, au nom de l'engagement royaliste, renoncer à participer aux affaires de la cité. Et donc, s'il n'y a que ça à faire, bah, ils se rallient effectivement au régime et ils travaillent à l'intérieur pour essayer de christianiser ou de catholiciser le système. Mais évidemment, ça va avoir un impact.
Vous notez surtout, par exemple, c'est le moment de la mise en orbite de l'Action libérale populaire de Jacques Piou, vous le soulignez dans cette introduction.
Absolument, tout à fait. Et voilà, donc l'Action libérale populaire de Jacques Piou, c'est au fond, grosso modo, bah, ce sont les anciens royalistes qui, après le ralliement, eh bien, vont s'intégrer de manière plus ou moins réussie. Enfin, bon, c'est quand même un partie importante à ce moment-là, vont s'intégrer de manière plus ou moins réussie au système républicain, au système parlementaire. Et bah, le résultat, c'est qu'il y a une espèce de. Le mouvement, le royalisme traditionnel, si j'ose dire, est en train de fondre peu à peu. Et c'est à ce moment-là qu'arrive un nouveau courant, hein, qui est ce qu'on appelle à l'époque le néo-royalisme. Le néo-royalisme qui est. Qui est, si je puis dire, un royalisme réinventé par des républicains. Des républicains qui comprennent que bah, la République, ça ne marche pas, que si on veut effectivement sauver la nation et sauver les valeurs de la France, il faut en revenir à la monarchie, mais qui donc vont devenir royalistes par d'autres biais que celui. Des royalistes d'avant, si j'ose dire, qui sont en train de perdre beaucoup de terrain. Voilà, il y a, si vous voulez, il y a un royalisme de naissance quasiment, mais qui est en train de, qui perd du, qui diminue progressivement, et il y a une sorte de royalisme d'acquisition et de réflexion qui est en fait mené et notamment par, évidemment, par Paul Maurras. Qui est en train de prendre le relais et, au fond, qui a pour but, contrairement au royalisme d'avant, qui a pour but de convertir des gens qui ne l'étaient pas. Voilà, de mordre sur des milieux qui n'étaient pas, a priori, sensibles au royalisme, des milieux non catholiques, des milieux ouvriers. Paysans, mais de paysans voilà, qui ne relevaient pas d'une vieille tradition chouane ou autre. Voilà. Et tout ça, donc, c'est ce que veut faire Maurras, c'est ce qu'il veut faire, notamment avec son grand livre, hein, qui est L'Enquête sur la monarchie, qui va paraître en 1909. Mais voilà, effectivement, l'enquête sur la monarchie, c'est un texte fabuleux, mais qui est un texte difficile, compliqué, épais. C'est un livre qui fait, qui doit faire 600 ou 700 pages dans la première édition et beaucoup plus après. Voilà, donc c'est pas un livre qu'on va passer à tout le monde. Et au fond, là où le manuel de Firmin Wagonier va jouer un rôle très intéressant et important, c'est que c'est un manuel qui est destiné justement, on va dire, aux lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire et de faire de la politique. Il y a un côté très, très populaire hein, que confirme la forme même de ce texte, un côté très populaire. Voilà, il faut que les royalistes aillent aussi vers le peuple, vers les pauvres, vers ceux qui n'ont pas. Qui n'ont pas la culture nécessaire pour aller lire Dictateur et Roi ou la Revue d'Action française ou l'enquête sur la monarchie. Voilà.
D'ailleurs, ce texte, il paraît initialement en feuilleton, c'est bien ça, Frédéric Robivoire?
Oui, il paraît en feuilleton, enfin, c'est des feuilletons assez brefs, hein. Il paraît essentiellement dans la Gazette de France, qui est un quotidien monarchiste de l'époque, qui va exister jusqu'à la guerre de 14. Voilà, on se rend compte que ça a beaucoup de succès, et très vite, donc, le feuilleton est bref, hein. C'est un petit livre qui fait moins de 100 pages. On va le publier donc sous une forme de brochure, on va dire, hein, avec le portrait du prince, du duc d'Orléans en frontispice. Et on va, enfin, ce livre, apparemment, c'est ce que dit Maurras, notamment dans un texte qui paraît quelques semaines plus tard, après la sortie également dans la Gazette de France, le livre apparemment s'arrache et on en aurait vendu plus de 60 000 exemplaires dès le premier mois. Bon, ce qui nous paraît à notre époque énorme, mais ce qui à l'époque est encore plus considérable. Hein. C'est une époque où on lit évidemment, il y a énormément de journaux qui ont des tirages gigantesques, mais voilà, les ouvrages qui en un mois dépassent les 10 000 exemplaires sont quand même assez rares. Et donc, on en a un bon exemple avec ça. Voilà. Donc, si vous voulez, au fond, c'est un livre qui répond exactement à une sorte de mutation culturelle importante, à la fois dans la France royaliste elle-même et dans la France tout court, avec notamment, effectivement, des groupes, des parties de la population qui sont susceptibles d'être touché par ce type de questionnement, ce type de lecture et ce type de réponse.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Frédéric Rouvillois qui nous présente le livre dont il a assuré la réédition aux éditions de Flore, Firmin Wagonier, Manuel du Royaliste. On pourrait se poser la question finalement, Frédéric Rouvillois, vous situez l'intérêt de la publication de ce livre pour l'époque, changement de méthode, changement d'atmosphère, vous parlez de mutations majeures dans votre introduction, mais justement, est-ce que ce livre n'est pas trop situé dans le temps? Et à part faire plaisir à quelques passionnés d'histoire des idées, c'est déjà beaucoup, est-ce qu'il y a une autre utilité à lire ce texte aujourd'hui?
Alors, pour les passionnés d'histoire des idées, c'est déjà, comme vous dites, c'est déjà pas mal. Notamment parce que il y a une chose sur laquelle j'ai un petit peu insisté dans le livre, parce qu'elle me paraît quand même tout à fait importante. C'est le fait que voilà, c'est un manuel qui se présente comme un petit peu le béaba, on va dire, du royalisme ou plutôt du néo-royalisme plus ou moins maurrassien. C'est bon, c'est en train de se construire, voilà. Dans cet ouvrage, comme dans un ouvrage dont on a parlé aussi, je crois, ensemble, il y a quelque temps, qui est Dictateur et Roi,
Oui, tout à fait.
ou comme dans d'autres textes de la même époque, qui est vraiment l'époque fondamentale de construction de la pensée de Maurras et de la pensée maurrassienne, il y a une chose qui est très peu apparente, alors qu'on nous dit que c'est le fondement de cette pensée maurrassienne, c'est la question antisémitisme. Voilà, quand vous allez dans la rue, ou plutôt, enfin, quand vous allez dans les journaux, dans des voilà, à l'université, etc., quand on parle de Maurras ou de Maurrasisme, les gens disent oui, Maurras, c'est un antisémite. Voilà. Et Maurras devient, dans cette perspective, une sorte de synonyme d'antisémitisme pour les Juifs. Or, en réalité, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans ces textes fondateurs, notamment dans Dictateur et Roi ou dans le manuel ouvriériste de Firmin Bagonier, cette question est une question, au fond, qui n'est pas totalement absente, hein. Elle est présente, mais elle est de manière extrêmement secondaire.
Oui, il n'y a aucun, en fait, il n'y a
Secondaire.
même aucune réponse qui soit principalement fondée sur cette question.
Non, non, c'est vraiment pas, c'est pas le problème. En définitive, dans le manuel de Bacconi, mais aussi dans les textes de Maurras de cette époque-là, au fond, ce qu'on reproche aux Juifs, c'est trois choses, hein. D'abord, d'être souvent liés à la République. Hein, c'est le moment de l'affaire Dreyfus. D'autre part, d'être potentiellement des Français dont la loyauté peut être contestée, parce que liés par leurs origines, etc., à d'autres pays.
Et puis c'est un topoï de l'époque. Il faut rappeler
Voilà,
qu'à ce
c'est
moment-là,
comme ça
l'anticléricalisme met
les
en
fameux
cause
juifs
les
allemands,
catholiques
etc.
comme
Et
étant
voilà.
dépendants du Vatican, par exemple. C'est
Voilà,
toute une
exactement.
recherche, sont encore dans le.
Tout à fait. Et le troisième élément, c'est le reproche, là encore tout à fait classique, hein, d'être finalement étroitement lié au grand capital, à l'argent, etc., etc. Donc, si vous voulez, ce sont des reproches qui sont, voilà, où le juif apparaît de manière subsidiaire, en quelque sorte, par rapport à des problèmes qui sont des problèmes existants indépendamment. Hein, on rattache effectivement de manière pertinente ou non, absolument peu importe en l'occurrence, on rattache les juifs donc à ces trois problèmes, mais ce sont ces trois problèmes qui posent problème, pas les juifs. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est, je trouve, très intéressant justement pour essayer de clarifier les choses et de montrer que, voilà, on va dire l'antisémitisme maurrassien de l'époque, c'est un antisémitisme finalement relativement restreint, limité, et en toute hypothèse, extrêmement subsidiaire. C'est-à-dire que c'est pas du tout, ni l'élément fondamental, ni l'objectif déterminant. Voilà. Et ne serait-ce que pour ça, je trouve que c'est intéressant, ça permet de clarifier les choses également là-dessus. Et là-dessus, c'est-à-dire non seulement sur Maurras et l'action française, mais aussi, au fond, sur, on va dire, je dirais pas, la logique conservatrice, si vous voulez, hein, le conservatisme au sens fort du terme, effectivement, ben voilà, il n'est pas du tout, il est jamais fondamentalement antisémite. L'antisémitisme, c'est l'époque où très clairement, encore, on comprend, enfin les gens comprennent quand on explique que l'antisémitisme, c'est une idée de gauche. Une idée de gauche, inventée par la gauche, inventée par, notamment dans au milieu du 19e siècle. Et à l'inverse, si vous voulez, c'est l'époque où l'un des symboles, on va dire, de la pensée conservatrice et royaliste, c'est le directeur du journal qui s'appelle Le Gaulois, qui plus tard fusionnera avec le Figaro, et qui s'appelle Arthur Meyer. Arthur Meyer, auquel, entre parenthèses, Georges Bernanos réserve un sort peu enviable dans la grande peur des bien-pensants, mais qui, voilà, n'en incarne pas moins à l'époque, on va dire, le royalisme traditionnel. Alors, donc ça, c'était le premier élément de réponse, un élément de réponse d'histoire des idées, mais qui nous concerne jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour montrer que, en toute hypothèse, l'antisémitisme n'est pas une idée de droite et la droite n'est pas foncièrement antisémite. Voilà. une question d'actualité, hein, quand même. Voilà. Et d'autre part, l'actualité, elle tient au fait que dans ce manuel du royaliste, et je précise bien du royaliste, hein, c'est comme ça qu'il s'intitule, ils n'ont pas du royalisme. Hein, il s'agit pas de, voilà, il s'agit de dire comment on est royaliste, pas forcément d'exposer de manière très savante une doctrine. Donc, ce manuel du royaliste explique, au fond, pourquoi, à l'époque, nous sommes au tout début du XXe siècle, comme de nos jours, au début du XXIe siècle, il y a des choses qui ne changent pas, et que de ce point de vue-là, eh bien, l'idée d'un pouvoir qui soit uni, stable, cohérent, qui s'inscrit dans la longue durée, qui ne soit pas dépendant des partis ou des lobbies, qui puisse par conséquent envisager l'intérêt général et le bien commun, et non pas seulement le bien d'un fragment de la société, d'un fragment de l'électorat. Tous ces éléments sont des éléments qui demeurent tout à fait pertinents, même si très profondément changé, même s'il y a des problèmes qui ont disparu. Même s'il y a à l'inverse des problèmes nouveaux qui sont apparus, l'élément de réponse principal, ce qui fait qu'on appelle ça le manuel du royaliste et pas d'autre chose, l'élément de réponse principal, il demeure présent.
Frédéric Rouvillois, j'aimerais que vous nous donniez votre avis sur une des affirmations de Charles Maurras dans la préface
Oui.
À ce livre de Firmin Baconnier. Maurras dit: l'enquête n'a fait qu'adapter aux nécessités du moment une doctrine aussi ancienne que la France et la civilisation. Finalement, c'est une manière pour lui là de dire, je résume, interrompez-moi si je me trompe, Frédéric Rouvillois, qu'il ne rejette pas les penseurs du classique du royalisme traditionnel. D'ailleurs, il y a toute une série de passages au début où il explique qu'il a rencontré Firmin Baconnier, Lisant Bonald, etc. Mais qu'il veut simplement assurer cette continuité pour que cette tradition soit finalement vivante. Est-ce que c'est vrai? Intellectuellement parlant, est-ce que il n'y a pas aussi une mutation dans la manière dont le royalisme est exposé, globalement dans l'enquête, mais aussi dans le manuel du royalisme?
Alors, dans cette préface, Maurras, vous l'avez lu comme moi, hein, explique effectivement qu'au fond, sa pensée n'est pas du tout originale. Et je trouve ça assez amusant, effectivement, hein, voilà, un auteur qui dit que sa pensée n'est pas originale, c'est quand même pas mal. Même si vous avez raison, c'est un peu faux. C'est un peu faux parce que, alors, il cite, la trilogie qu'il cite, c'est Bossuet, Bonald et Auguste Comte. Mais voilà, la particularité de Maurras, c'est que c'est pas seulement Bonald, et donc parlant Bossuet ou Bonald d'ailleurs, et donc une approche très très catholique, on va dire, de la monarchie. C'est aussi Auguste Comte, et il explique que pour lui, Auguste Comte, c'est encore plus important que les deux précédents. Auguste Comte, donc, une approche positiviste, rationnelle de la monarchie. Hein, c'est l'idée selon laquelle, la fameuse idée selon laquelle la monarchie se prouve comme un théorème, comme une opération de mathématiques. La monarchie, c'est évident, comme 2 et 2 font 4, nous dit Maurras. Or, effectivement, ni l'approche de Bonald, ni surtout, évidemment, celle de Bossuet, hein, par exemple, la politique tirer les propres paroles de l'Écriture sainte, hein, où il déduit finalement la monarchie et les réponses politiques classiques de la lecture de sa lecture de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà, l'approche de Maurras n'est pas la même. Hein. Il est clair que Maurras, notamment à l'époque, hein, il est Maurras est agnostique proclamé. Il changera vers la fin de sa vie, mais il est agnostique et effectivement, ça n'est plus, on ne peut plus, il ne peut plus imaginer comme pertinente l'idée d'une monarchie de droit divin sur une base purement religieuse, etc., etc. Alors même que, malheureusement, au début du XXe siècle, il y a déjà une grande partie des Français qui ne croient plus en Dieu, qui ne sont plus catholiques et et pour qui, par conséquent, une monarchie de droit divin apparaîtrait finalement comme une sorte d'aberration, ou de chose inadmissible. En revanche, tous ces Français savent que 2 et 2 font 4. Peu qu'on apprenait les mathématiques, hein, ils savent que 2 et 2 font 4, ils obéissent au principe du bon sens et de la raison, et c'est finalement sur cette base-là, hein, que Brass reconstitue, en quelque sorte, qui reconstitue la doctrine royaliste. Il le montre, hein, dans l'enquête sur la monarchie, et c'est sur cette base également que Firmin Baconnier, même s'il est chrétien, hein, que Firmin Baconnier procède aussi dans son manuel du royaliste. Donc effectivement, la vraie nouveauté au fond de Maurras, c'est que il prend en compte les apports du passé. Il prend en compte l'œuvre de Bossuet, l'œuvre de Bonald, les contre-révolutionnaires du 18e ou du 19e siècle, mais il ajoute certains éléments nouveaux et il prend en compte une réalité nouvelle qui est que malheureusement, eh bien, la France n'est plus un pays catholique et que par conséquent, il faut fonder sur d'autres éléments, des éléments communs. La réponse politique qu'on doit apporter au problème du temps. Hein, le principe de légitimité, hein, dont il parle beaucoup, évidemment, le principe de légitimité, ça suppose évidemment l'acceptation par les gens, par les citoyens, du système politique existant. Hein, la légitimité, elle n'existe pas en dehors de ça. Un système qui n'est pas accepté par les citoyens, eh ben, il n'est pas légitime. Et donc voilà. Et comment obtenir cette légitimité? Eh bien, nous dit Maurras, en ayant un système qui soit construit de façon suffisamment rationnelle pour lui permettre, en temps normal, d'assurer le bien commun et donc de gagner, ce faisant, le consentement de la population.
Frédéric Rouvillois, il y a beaucoup de passages, à la fois dans la préface de Maurras et aussi dans le texte, sur la figure du prince, l'importance du prince. Alors évidemment, on comprend qu'il y a un aspect essentiel dans la démonstration, hein. C'est pas seulement sur cet aspect-là que je vous interroge, mais plutôt sur l'importance qu'il y a, au moment de la publication de ce texte, de revenir sur la personne même du prince. Ça me paraît très sensible, à la fois dans la préface de Maurras et dans le manuel. Est-ce que ça vous a... interpellez-vous aussi ou non? Peut-être que c'est simplement un biais de lecture, et si oui ou sinon, pourquoi?
Ben justement, sur ce plan-là, si vous voulez, la nouveauté du royalisme maurrassien, du néo-royalisme, comme on l'appelle à l'époque, hein, c'est le fait qu'il ait un fondement rationnel. Et donc, il n'est pas dans un... Il ne participe pas, on va dire, ni à la dogmatique catholique d'avant, ni à une espèce de pathos un peu sentimental qui est également présent dans certains milieux royalistes, notamment royalistes conservateurs. Ceci dit, même s'il ne sacrifie pas à ce pathos, le royalisme maurrassien ne revient pas comme le royalisme traditionnel. Il n'y en aurait pas moins à l'idée que l'important et, si j'ose dire, le miracle de la monarchie, c'est le fait que c'est un système dans lequel le pouvoir s'incarne. Le pouvoir, l'autorité est incarnée, elle est vivante, elle est visible, on peut par conséquent la toucher, on peut l'aimer. Un peu ce type de, si vous voulez, de sentiment ou de sentimentalisme que peuvent avoir. Ces vénards que sont nos voisins anglais avec la famille royale, c'est-à-dire, voilà, ce sont. Ils peuvent voir effectivement l'autorité s'incarner devant eux, ils peuvent la trouver sympathique et émouvante quand c'est la reine Élisabeth, ils peuvent la trouver ravissante et élégante quand c'est sa belle-fille, ils peuvent la trouver touchante quand c'est son fils qui sera roi après. pardon, son petit-fils, son arrière-petit-fils, donc qui sera roi après son père. Voilà, tous ces éléments d'incarnation, au fond, peuvent eux aussi finalement être démontrés de façon rationnelle, de même qu'ils peuvent être acquis de façon sentimentale et non rationnelle ou religieuse. Voilà, et donc c'est dans ce sens que ça nous montre qu'il n'y a pas, il y a pas de césure en fait sur l'essentiel hein, entre le royalisme traditionnel d'avant Maurras et le néo-royalisme maurrassien. C'est-à-dire que l'un et l'autre, au fond, aboutissent à un même moyen qui est le roi, la famille royale, au service d'une même fin, c'est-à-dire le bien commun et le salut de la nation.
Ce salut de la nation, il est marqué par un certain nombre de citations qui fleurent bon à l'époque. Et le républicanisme, répond Firmin Baconnier, une collection d'erreurs sociales qui causent infailliblement la ruine morale et matérielle des États. Sur les principes, c'était une des questions que je vous posais, les principes ne sont ni vieux ni jeunes, ils sont bons ou mauvais. Et plus loin, nous ne prétendons pas soutenir l'infaillibilité du monarque, mais d'abord, où le roi a 100 chances d'errer, la République en a des millions et des milliards. Il faut préciser à nos auditeurs que les passages sont brefs et bien frappés.
Voilà. Et donc je prolonge votre question, cher Charles, en vous disant que voilà, l'intérêt de rééditer cet ouvrage, outre le plaisir de l'historien et de l'érudit, etc., etc., c'est aussi ça, c'est de le faire lire à des jeunes ou à des moins jeunes, mais qui n'ont pas trop l'habitude de lire des choses politiques, et de leur montrer que la politique, c'est aussi des questions simples, avec des réponses simples. Et comme vous dites, bien frappé au coin du bon sens, et d'un bon sens qui n'a pas depuis 1903.
Il nous reste 5 minutes pour conclure sur cet ouvrage et conclure cette émission. Frédéric Rouviot, je rappelle le titre de l'ouvrage de Firmin Baconnier, Manuel du Royalisme aux éditions de Flore. Et j'aurais dû commencer par là, je ne vous ai rien dit, rien demandé sur ce qu'on sait des traits biographiques de Firmin Baconnier.
Vous m'avez pas posé la question parce que c'est pas très très intéressant. Hein. C'est un du Midi qui est monte à Paris, un peu comme avait fait Maurras d'ailleurs quelques années auparavant, pour devenir journaliste et qui là évidemment commencé à piger dans divers journaux ou revues catholiques et royalistes. C'est dans ce contexte-là hein, que Maurras fait sa connaissance, qu'il va écrire donc, le Manuel du Royaliste, mais il ne va pas s'arrêter là, et ça c'est peut-être la chose la plus intéressante chez Baconnier. En fait, ce qui le passionne, c'est certes les questions institutionnelles, mais aussi et surtout les questions sociales. Il vient d'un milieu modeste, et par conséquent, il est sensible à la situation pour le moins précaire, si vous voulez, du prolétariat français et notamment parisien de son époque. Et donc, il va, après donc, le Manuel du Royaliste, il va se tourner essentiellement vers ces questions sociales en reprenant et en développant, on va dire, la thématique du catholicisme social, de la tour du pain, éventuellement du corporatisme, etc. Et il va poursuivre dans cette lignée pratiquement jusqu'à la fin. Donc voilà, en fait, dans l'œuvre pas très abondante hein, quand même de Baconnier, le règne du royaliste, c'est un petit peu un peu une exception. Hein. Ensuite, il va surtout se consacrer à cette question des corporations, de la question sociale, des ouvriers, des paysans, etc. Mais voilà, c'est un personnage qui n'en est pas moins intéressant, hein, qui pourrait. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a eu beaucoup d'études sur ça, sur lui, mais voilà, c'est un personnage tout à fait attachant, on va dire. Hein, et Maurras, dans sa préface, le présente d'ailleurs comme tel, hein, comme portant beau dans les.
Oui, il y a même un portrait physique par Maurras, c'est amusant.
Oui, c'est assez amusant. C'est le jeune Maurras qui parle du jeune Firmin Baconnier. Et voilà, sa belle prestance, sa haute taille, sa voix forte. Enfin, voilà, tout ce qui rend le personnage un petit peu. Un peu sympathique et assez un petit peu voilà, couleur locale et couleur d'époque, on va dire.
Alors, question amusante parce qu'elle fait le lien avec l'actualité. Il y a des réflexions de Maurras, et je crois que vous les étudiez aussi dans votre introduction, si je ne dis pas de bêtises, Frédéric Robillois, sur le côté insupportable qu'il y avait pour les Républicains avoir un tel manuel être diffusé et avoir du succès. On sent que déjà à l'époque, l'intolérance était un trait majeur des opposants. Et je cite à cet égard Maurras dans sa préface, parce qu'elle est une religion, la religion de l'anarchie, il faut bien qu'elle persécute les autres cultes.
C'est très bien vu, là aussi, c'est tout à fait actuel. En fait, si vous voulez, la lecture d'un petit bouquin comme ça démontre que, bon, il y a évidemment des choses qui changent beaucoup, mais il y a aussi des choses qui ne changent absolument pas. Et de ce point de vue-là, effectivement, là, le sectarisme républicain est parfois tout à fait intemporel.
Vous nous avez annoncé la publication du livre de Maxime Tandonnet. Y a-t-il d'autres publications à prévoir aux éditions de Flore dans les semaines à venir ou les mois à venir?
Absolument. Écoutez, dans les temps prochains, il y a une réédition, cette fois-ci, préfacée par mon ami et collègue Christophe Boutin, de l'histoire de trois générations de Jacques
C'est
Bainville.
bien de faire travailler un peu Christophe Boutin, là. Il n'avait
Voilà,
pas
très
publié
bien.
depuis longtemps.
Voilà. Par ailleurs, entre autres choses, il y a un roman de Stéphane Gioconti, qui est non seulement un érudit spécialiste de Maurras, de Boutan, du Japon, etc., mais également un grand musicologue, et un roman dans lequel il imagine, un roman épistolaire de Wagner, qui veut réaliser son rêve, c'est-à-dire faire après les opéras consacrés au monde germanique, faire un grand opéra consacré au monde asiatique. Voilà.
Un immense merci de nous avoir accompagnés au cours de cette émission, Frédéric Rouvillois. Je rappelle les titres des deux ouvrages que nous avons eus ce soir, Maurras et le racisme d'Axel Tisserand et Manuel du Royaliste de Firmin Baconnier. Tout ça est aux éditions de Flore. Merci à Claudia de nous avoir accompagnés dans cette émission et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre journal des débats.
Merci Charles.
Venez d'entendre le Libre Journal des débats dirigé par Charles de Meyer, émission préenregistrée les 19 et 26 septembre 2025 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 1er octobre de 21h30 à 23h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.